C'est le moment de faire un bilan de saison du côté de l'Impact de Montréal pour nous en parler. Notre collègue Jérémy Filosa est avec nous. Salut Jérémy.
Salut.
Jérémy, l'Impact qui termine la saison 9e dans l'Est avec 12 victoires, 17 défaites et 5 verdicts nuls, un total de 41 points. L'Impact qui n'a pas participé au match éliminatoire. Si on voulait décrire sommairement cette saison chez l'Impact de Montréal, comment on arrive à synthétiser tout ça?
Ben, les montagnes russes. Les montagnes russes, mais pas parce que on n'a pas nécessairement bien fait les choses, parce que cette année, pour une fois, on a eu un mercato qui avait vraiment de l'allure durant l'été. Mais, tu sais, bon, écoutez, le point d'ancrage de la saison 2019, c'est la blessure de Nacho. C'est l'absence de Nacho pendant une grande partie de l'année. On a vu que quand Nacho est revenu, on a été capable de faire de quoi d'intéressant en championnat canadien en fin de saison. Mais durant, la grande partie de l'été, là, je vous dis, du mois de juin jusqu'au mois d'août, là, il y a eu un gros trou noir. Puis, tu sais, il fallait s'attendre à ça. C'est comme dans n'importe quel sport, tu perds ton meilleur joueur. Tu peux t'en tirer pendant un petit bout de temps, quelques semaines, mais sur la longueur d'une saison complète, ça finit par te rattraper. C'est dommage parce que je me demande de quoi aurait eu l'air cette saison-là avec un Nacho Piatti en santé. Ça a fait en sorte aussi que Rémi Garde a perdu son emploi. Et ça a été vraiment la base de tout ce qui s'est passé de négatif, mais aussi tout ce qui s'est passé de positif avec les contributions importantes de Nacho en championnat canadien.
J'aimerais qu'on parle justement, tu as parlé de la perte de Nacho Piatti qui a miné la saison chez l'Impact de Montréal. On peut parler aussi de la tenue de la défensive. Ça a été complexe pour l'Impact cette année en défensive. 60 buts accordés en MLS cette saison avec 47 buts marqués. C'est un deuxième pire différentiel dans l'Est avec un moins 13. Je ne suis pas un fan de statistiques, mais quand tu n'arrives pas à bloquer l'hémorragie quand tu es sur terrain et tu sais que tu n'as pas les outils pour marquer, il me semble que tu es dans une situation difficile.
Ouais, t'es dans une situation difficile, puis tu sais, l'Impact, et ça date depuis les années de Mauro Biello, quand ils avaient des problèmes en défensive, surtout sur des ballons aériens, sur les coups de pied arrêtés. Tu sais, on disait, il faut que tu te grossisses. Cette ligue-là, là, on se comptera pas d'histoire, c'est une ligue qui est physique, on voit d'autres équipes qui ont des tours de contrôle en défensive centrale, puis je sais que c'est pas tout la grandeur, mais ça fait une grosse différence. Tu sais, regarde juste quand Rod Fanny est revenu au jeu à la fin de l'année, à quel point ça a stabilisé un peu la défensive de l'Impact de Montréal, même s'il a joué très peu de matchs. Mais ça fait une différence. Tu sais, t'avais un Zakaria Diallo en début d'année qui donnait un bon coup de main à ce niveau-là. Puis quand Diallo est parti, encore une fois, ça a laissé un gros trou. Ça avait commencé déjà avant. Mais l'Impact se doit de vraiment se grossir, aller chercher des taux de contrôle qui peuvent passer 2-3 années ici à Montréal sur lesquels on peut se fier. On peut regarder ce que Toronto a fait avec l'arrivée d'Omar Gonzalez, à quel point ça a solidifié la défensive du Toronto FC. Donc, il faut vraiment réfléchir à cela comme il faut du côté de l'Impact de Montréal pour les prochaines années, parce que on a bien beau vouloir défendre en équipe puis tout ça, puis se donner, puis c'est le vouloir, mais quand le gars à côté de toi, il mesure une tête de plus, puis lui aussi, ça y tente, puis il a le désir, tu gagneras pas souvent.
Mais ben, dis-moi, on a vu de bons signes, parce qu'on a ramené Rod Fanny pour une autre saison. Ouais. Donc, on jette les bases sur une défensive peut-être un peu plus solide pour la prochaine saison.
Ben, ça prend plus que ça, par contre. Tu sais, on va se le dire, ça prend mieux. Moi, je pense que Rudy Camacho, l'année prochaine, risque d'être meilleur. Cette année, on a vu une amélioration. On peut dire que le gars, comparativement à sa première saison, il y a eu des améliorations, et je sais que Rudy a eu certaines difficultés avec des réglages de médicaments par rapport à une certaine condition qu'il a, qu'il pouvait prendre en Europe, pas ici et tout cela, puis les médicaments qu'on lui avait prescrits ici lui avait vraiment nui au côté physique. Donc je pense que Rudy, l'année prochaine, peut vraiment nous donner un meilleur coup de main, mais ça prend encore une fois une autre bonne acquisition en défensive centrale, selon moi.
Jérémy, j'aimerais qu'on revienne sur le départ de Rémi Garde. Ça a surpris plusieurs personnes. On s'attendait pas à voir Rémi Garde quitter. Et là, en plus, jumelé à l'arrivée de Thierry Henry, j'aimerais que dans un premier temps, tu me commentes le départ de Rémi Garde. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision de la part de l'Impact de Montréal?
Écoute, le gros problème qu'on avait avec Rémy Garde, mis à part là, le fait qu'on n'était peut-être pas toujours d'accord à 100% sur son 11 partant, notamment là, il y avait un conflit de personnalité avec Anthony Jackson-Hamel, mais le gros problème avec Rémy Garde, c'est que quand Joey l'a embauché, au lieu de seulement lui donner le titre d'entraîneur, il lui a donné aussi les responsabilités pour ce qui est des dépenses. Adam Braz, qui était là en poste à l'époque, dans le fond, la décision finale, elle revenait à Rémy Garde. Mais Rémy Garde n'avait pas les compétences pour gérer une masse salariale MLS avec toutes les complexités qui venaient avec. Tu sais, je vais être bien franc avec toi, même vers la fin de son règne, Rémy Garde ne comprenait pas à 100% comment fonctionnait la convention collective de la MLS. Donc, tu te places dans une situation négative. Il y a eu de l'argent qui a été dépensé avec l'autorité de Rémy Garde, par exemple, des Maxi Urruti qui gagnent plus d'un million de dollars, par exemple, ça peut être Rudy Camacho à qui on donne un contrat ferme de 4 ans, des choses qu'on ne voit mais,
Jérémy,
nulle
excuse-moi,
part ailleurs en MLS.
Excuse-moi, je te coupe, mais tu dis pas qu'on avait un spécialiste, un capologiste qui était là pour nous parler justement de la convention collective et de la masse salariale chez l'Impact qui aurait pu donner un coup de main à Rémy Garde?
Ben, c'est pour ça que Vasily Krimandzidis est arrivé l'hiver passé. Parce qu'on s'est rendu compte que Rémy Garde avait vraiment besoin d'aide et avait vraiment besoin d'un expert. Donc, quand Adam Braz a quitté, on a rapatrié Vasily, qui était un Québécois, mais qui était parti travailler avec les Earthquakes de San Jose. On l'a ramené ici. Et à partir de ce moment-là, c'est à lui qu'on a confié les tâches de gérer le plafond salarial chez l'Impact de Montréal. Mais il y avait du mal qui avait déjà été fait. Les acquisitions, comme je viens de mentionner, de Camacho pour 4 ans, c'est des affaires qu'on voit pas dans la MLS. Des gros montants pour des gars comme Maxi Urruti qui gagnent beaucoup trop cher pour qu'est-ce qu'ils amènent sur le terrain. Donc, c'est là l'erreur que l'Impact a fait. Parce que pour le reste, moi, je pense que Rémy Garde aurait été capable d'amener cette équipe-là à un plus haut niveau en termes de coaching, mais il n'aurait pas fallu que ce soit lui qui s'occupe de la masse salariale. Il aurait fallu qu'on lui dise « Donne-nous tes contacts, amène-nous tes propositions, tes joueurs, on va travailler ensemble, mais en bout de ligne, tu sais, à un moment donné, là, il y a Vasily s'est interposé là-dedans, puis il a dit à Rémy Garde, il y a tel gars, c'est impossible, tel contrat, on peut pas donner ça parce qu'on se peinture dans le mur les 3 prochaines années, on va être prêt avec ces contrats-là. Donc, je trouve que quand même, en général, depuis l'arrivée de Vasily, on voit des dépenses qui sont un peu plus normales, un peu plus digestibles, comme on dit dans le monde du sport.
Donc, si Rémy Garde quitte, là, évidemment, on souligne en grande pompe l'arrivée de Thierry Henry comme entraîneur. Comment tu vois Thierry Henry, entraîneur de l'Impact? Parce qu'il y a plein de questions qui se posent. Ça n'a pas été nécessairement fructueux, sa dernière expérience avec comme entraîneur chez les professionnels. Comment tu la vois, toi, cette expertise de Thierry Henry?
Ben, extrêmement positive. L'Impact avait besoin de cela. Puis je sais qu'il y a des gens qui chialent et qui disent « Comment ça se fait qu'on a seulement interviewé un candidat? » Ben, personnellement, là, quand Thierry Henry appelle, honnêtement, là, je veux dire, il n'y en a pas d'autre choix. C'est pour l'Impact de Montréal qui voulait revenir sur la map des grands clubs mondiaux après le départ de Didier Drogba, il faut que tu donnes à ce gars-là une chance. Faut que tu lui donnes une chance. Et en plus, tu l'entoures avec des gars qui sont ici depuis un bon bout de temps, qui connaissent la MLS, qui ont continué de suivre la MLS de très près. Wilfried Nancy, Patrice Bernier, entre autres, qui vont être là dans le coaching staff. Donc, il n'arrive pas ici comme un cheveu sur la soupe. Personnellement, j'aurais aimé que Thierry Henry s'en vienne immédiatement à Montréal et s'installe le plus rapidement possible au lendemain de la conférence de presse au mois de novembre. Moi, je ne lui aurais pas permis de retourner en Europe, faire ses boîtes, puis tout ça, puis revenir seulement le 4 ou le 5 janvier. Parce
et pourquoi?
Qu'on a vu... Ben, parce que moi, je me souviens, lorsque Rémy Garde est arrivé justement la première semaine du mois de janvier, puis lui, il avait quand même 2 semaines devant lui pour préparer son camp. C'est pas beaucoup. Et ça a été un début de saison catastrophique. Ne connaissait pratiquement pas les joueurs. Ça y a pris du temps à mettre sa philosophie en place. Je me souviens d'avoir discuté avec des joueurs au mois d'avril, même au mois de mai, qui m'ont dit « On comprend pas exactement le style qu'il veut qu'on joue. » Et ça a pris un bon 3 mois. Et malheureusement, l'Impact s'était déjà creusé un trou tellement grand qu'ils n'ont pas été capables de s'en sortir. Donc, tu veux te mettre au travail le plus rapidement possible. Et cette année, en plus, la saison commence 2 semaines plus tôt parce que tu es en Ligue des champions. Donc, moi, j'aurais vraiment apprécié avoir Thierry Henry à Montréal dès le mois de novembre, c'est-à-dire que tes meetings, t'es fait pas sur Facebook Live ou sur Skype, tu fais ça en personne, puis quand t'as une question, tu te lèves, tu sors de ton bureau, tu t'en vas dans le bureau de ton associé à côté, puis tu dis « Hey, tel joueur, puis tel gars, puis ouais, j'avais une question, puis tu sais, en tout cas, c'est mon opinion, maintenant, il va falloir faire avec, parce que la décision a déjà été prise, donc... Écoute, Thierry Henry va arriver ici, je présume, le 4, 5, 6, 7 janvier, quand l'entraînement commence le 13. Fait que t'as une semaine, mon chum, pour faire ton game plan.
Ouais, mais c'est Thierry Henry. Non, mais je dis ça, il y a quand même une différence. T'sais, c'est Rémi Garde qui s'amène, puis c'est Thierry Henry qui s'amène. Les gars, ouais. Le canal de communication va être pas mal ouvert du côté des gars. Là. On va vouloir le connaître, là.
Moi, il faut que Thierry Henry, avec le peu de temps qu'il va avoir à sa disposition de préparer la saison, il faut qu'il se fie à ses associés. Parce que s'il arrive ici en se disant « c'est moi qui décide tout de suite », on est dans le trouble. Parce qu'il n'y aura pas eu assez le temps pour bien analyser la situation. Quand Wilmer Cabrera est arrivé, il a dit « moi, je suis ouvert, puis gars, je vais écouter les gars qui sont déjà là, je ne suis pas ici pour réinventer la roue ». Mais quand Rod Fanny était prêt à jouer contre Cincinnati, ben lui, il a dit « moi, je ne connais pas ce gars-là, je ne sais pas ce qu'il peut m'amener, fait que je ne l'habille pas ». Et c'est un match dans lequel l'Impact a perdu 1-0, a été officiellement éliminé, et il y a eu une bourde défensive qui a été faite, alors que probablement que si Fanny était dans l'alignement, et si Wilmer avait écouté ses assistants, il aurait été dans l'alignement et peut-être que ça aurait été un revirement de situation chez l'Impact de Montréal à ce moment-là. Mais lui a fait à sa tête, même s'il n'avait pas toutes les informations dans ses mains. Et ça a coûté à l'Impact. Donc, j'espère que Thierry Henry, en arrivant ici seulement au mois de janvier, va avoir une ouverture d'esprit pour essayer de continuer ce que les gars qui étaient là avant lui ont déjà commencé à mettre en place.
Dis-moi, selon toi, Jérémy Filosa, est-ce que... Écoute, quand Rémi Garde était là, on connaît Rémi Garde. On connaît son style de jeu un petit peu plus conservateur. C'est lui-même un milieu de terrain défensif. Mm-hmm. Voulait un jeu extrêmement serré. Là, t'as Thierry Henry qui est là. Est-ce que lui, évidemment, conscient des outils qu'il a sous la main, est-ce que tu penses que le visage de l'Impact changera pour la prochaine saison?
Je sais pas si ça va arriver tout de suite. C'est sûr que là, tout le monde nous a dit, incluant Olivier Renard, à la fin de la dernière saison, faut qu'on commence à jouer un soccer plus intéressant. Parce que c'est une chose de perdre, mais quand c'est plate en plus, puis cette année, on a eu des matchs, malheureusement, très drabes. Et ça, ça fait tellement mal, parce qu'il y a tellement de monde qui viennent au Stade Saputo dans un été pour la première fois. Puis il y en a plusieurs pour qui le soccer, c'est pas dans leur culture, c'est pas dans leur identité. Puis si tu rates ton coup, mais ces gens-là vont dire « ben, je le savais, c'était un sport plate, puis c'est exactement ce que je pensais que ça allait être, puis je reviens plus ». Donc, c'est important de mettre un spectacle sur le terrain. Le problème, c'est que présentement, l'Impact n'a pas un club pour jouer du soccer extrêmement spectaculaire. On en a quelques-uns. Nacho peut donner un spectacle. Lassi Lapalainen peut être spectaculaire. Orji Okwonkwo peut être spectaculaire. Mais en milieu de terrain, ça demeure quand même une équipe qui a la tête et les éléments pour jouer un style un peu plus défensif. Olivier Renard nous l'a dit, ça va prendre 2, 3, 4 mercato pour mettre cette équipe-là à ma main. Donc, je ne pense pas que ça va se faire en claquant des doigts que dès l'année prochaine, on va avoir un club spectaculaire et qui va se projeté en attaque soir après soir.
Oui, parce que la moyenne des assistances a mangé un sérieux coup. Là. De 2012, son entrée en MLS, c'était 22 772 spectateurs. Et là, en 2019, moyenne d'assistance à 15 347. Ça fait mal. Ça fait mal au portefeuille. Ça fait mal à l'organisation.
Ben oui, tu t'en vas pas dans la bonne direction. On s'entend. Là, tu vas essayer de grossir. Tu vas essayer d'avancer. Là, Joey Saputo a des plans pour agrandir le stade. Il a des plans pour investir de l'argent, pour hiverniser ce stade-là. Mais quand tu es les foules diminuent année après année et tu t'en vas pas dans la bonne direction. Kevin Gilmour est arrivé au mois de janvier. Moi, je vais lui donner le temps de tout mettre en place. Je pense qu'il y a des très bonnes idées, mais ça va prendre quelques années pour que ça fonctionne. Et en bout de ligne, s'il faut que le produit sur le terrain soit bon, c'est la seule chose. Et on te demande pas de gagner tous les matchs. Mais si, quand le spectateur vient au match, il est au bout de son siège parce que on a beaucoup de chances de marquer, on a beaucoup de tirs au filet, il va revenir le client. T'sais? Mais quand tu as un spectacle terne parce que tu veux toujours défendre puis tout ça, même quand tu es à domicile, c'est un jeu extrêmement glissant qu'on joue dans un marché où on tente encore de faire apprécier ce sport-là.
Maintenant, l'Impact a tenté de se structurer. En fait, pas a tenté, s'est structuré, a mis en place une structure, évidemment en collaboration avec avec Bologne, avec le FC Bologne, autre club propriété de Joey Saputo. Et là, on a décidé d'amener un directeur sportif ici. Tu en as parlé, c'est Olivier Renard qui s'est amené. Comment tu la vois, cette venue-là? Et surtout, je veux que tu me commentes le gars, parce que ça semble un gars extrêmement réservé. C'est pas un gars qui veut tenter de faire un feu d'artifice. Comment tu le vois, Olivier Renard?
Ben écoute, il a l'air d'un gars très posé. Premièrement, il a l'air d'un gars brillant. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est pas le gars qui va faire des grosses sorties publiques. Il travaille dans l'anonymat. Et déjà, il m'a impressionné. Parce que dans le passé, je peux te dire une chose... Le nom du prochain entraîneur de l'Impact de Montréal, ça sortait toujours au moins deux semaines d'avance. Il y avait des rumeurs de savoir qu'Olivier Renard est allé rencontrer en personne, en Europe, Thierry Henry, puis qu'il n'y a personne qui a su ça. Ça m'impressionne. Parce que dans le monde du soccer, c'est très difficile de garder les histoires secrètes, que ce soit des transferts, que ce soit des entraîneurs qui changent d'adresse et tout cela. Donc, il travaille de façon professionnelle, de ce que je vois. J'apprécie le fait que pour la première fois depuis l'entrée en MLS, il y a une hiérarchie chez l'Impact de Montréal. Tu sais, Rémi Garde, là, il s'est pogné en personne avec Joey Saputo quand le fiasco Jimmy Briand est arrivé. Mais là, si jamais Thierry Henry a un pépin, il n'aura pas parlé directement à Joey Saputo parce qu'en haut de lui, il y a Olivier Renard. Puis en haut de Olivier Renard, il y a Kevin Gilmore. Puis en haut de Kevin Gilmore, là, tu es rendu à Joey Saputo. Donc, pour qu'il se rende en haut, il faut qu'il passe plusieurs étapes. Ce qui est normal dans une structure sportive, mais qu'on n'avait pas dans le passé. Ou ceux qui étaient là, soit qu'ils n'avaient pas la crédibilité pour le faire, ou on leur donnait pas les outils et le pouvoir pour le faire. Donc là, ça commence à ressembler à une vraie structure d'une organisation sportive. Il était temps. Ça fait longtemps qu'on le criait sur tous les toits. Maintenant, on est rendu là. On a des dépisteurs. On a une équipe aussi d'éclaireurs du côté de Bologne avec Walter Sabatini, qui est une sommité du monde du soccer en Europe. Qui, lui, ne s'occupe pas de la gestion du plafond salarial, mais qui est en contact avec Vassili Krivandidis, qui l'informe de quelles sont nos disponibilités, combien d'argent on a sous le plafond, qu'est-ce qu'on peut dépenser. Walter Sabatini, c'est un ajout important dans le diagramme de l'organisation de l'Impact de Montréal et de celui du FC Bologne. Il est déjà responsable de l'arrivée, par exemple, de Lassie Lapalainen, de Bojan Kirkic. Donc, ce sont des éléments extrêmement positifs, des choses qu'on ne voyait pas peut-être dans le passé.
Ben parlons-en, Kirkic. Évidemment, on le nommait comme le jeune Messi. On expliquait son histoire. Ouais. Lui qui a subi beaucoup de pression, c'est un gars qui a tellement de talent, mais à un moment donné, il a plafonné. Il a même lui-même dit, bon, écoute, j'ai de la difficulté à composer avec la pression pendant les matchs. On pensait que c'était peut-être pour être un peu plus éclatant à son arrivée avec l'Impact. Ouais. Moi, je m'attendais peut-être un petit peu à plus, là.
Ben, ça me fait penser un peu à Marco Di Vaio quand il est arrivé ici, c'est-à-dire qu'il est arrivé durant la fenêtre de transfert d'été, puis ça a pris un petit peu de temps avant de se mettre en marche. Mais à la fin de l'année, on pouvait clairement voir qu'il était de plus en plus à l'aise. J'ai pas encore une opinion à 100% de quel rôle spécifiquement il devrait jouer sur le terrain. Est-ce qu'il devrait être un milieu offensif, un numéro 10? Est-ce qu'il devrait être un attaquant de pointe ou est-ce qu'il devrait jouer entre les deux? Mm. C'est peut-être un peu là son rôle.
Parce qu'il distribue le ballon de façon magistrale.
Oui.
Puis il a un coup de pied fabuleux également pour le filet. Fait que donc, c'est difficile de le camper juste dans un rôle. Là.
Exact. Puis ça va aussi dépendre de qui est autour de lui puis qui est capable de jouer telle position ou pas. Mais Bojan, la bonne nouvelle, c'est que tu peux quand même le bouger dans quelques... Tu sais, tu peux le mettre un match donné comme attaquant de pointe, puis il peut faire le travail. Tu peux le mettre en 10 aussi, puis il peut faire le travail. Donc, c'est un gars qui a suffisamment d'expérience, de talent, où il peut te dépanner dans ces positions-là. Mais j'aimerais ça le voir camper un rôle et jouer toute la saison le plus possible à cette position-là. C'est une acquisition importante pour l'Impact, sauf qu'il faut bien l'entourer. On a quand même vu l'année passée, avant que Piatti revienne, que tout seul, il ne peut pas transporter nécessairement l'équipe sur ses épaules.
Sauf que là, ce qui est extrêmement positif pour l'Impact, ça s'appelle la Ligue des champions de la CONCACAF. On se souvient les moments exaltants vécus. Je pense que c'est quoi, 2015-2016 qu'on a participé?
Oui, 2015 et 2009.
Et c'est vraiment, c'est ce qui a mis d'ailleurs l'Impact sur la map soccer mondiale. Ouais. Et vraiment ça, il faut mettre beaucoup d'emphase là-dessus. Crois-tu qu'on sera prêt? Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent du côté de l'Impact. Les choses, ouais. Je nomme nouveau coach, un nouveau directeur sportif. Il y a sûrement des nouveaux joueurs qui vont joindre à l'Impact. Est-ce que tu penses qu'on sera prêt pour ce défi magistral pour l'Impact?
Quand on regarde ça froidement, c'est sûr que ça peut nous faire peur. Parce que au moment où on se parle, il n'y a pas eu d'acquisition majeure chez l'Impact de Montréal. On a un club qui a eu quand même des difficultés l'année passée. On va arriver contre des équipes qui, eux, sont en pleine forme parce que sont en plein milieu de leur saison. Donc, ils vont avoir un avantage au niveau du conditionnement physique. Donc, oui, ça me fait peur. C'est pas impossible que l'Impact se fasse sortir dès les huitièmes de finale. Ça a pris ça, c'est pas un club de pied de céleri. En même temps, quand Johan Venegas est ton meilleur joueur, puis on le connaît parce qu'il a joué ici, on reconnaît aussi à quel point peut-être on est peut-être limité au niveau du talent. Mais les Costaricains travaillent très fort. Ils sont petits, ils sont rapides et ils ne lâchent jamais. La Ligue des champions, ça change tout. Ça change absolument tout. Tu sais, quand on regarde ça, là, l'histoire de l'Impact de Montréal, si l'Impact... Là, OK, puis je vais reculer au championnat canadien que l'Impact avait gagné l'année précédente. OK? Mm-hmm. L'Impact passe à un cheveu de se faire éliminer par le FC Edmonton. OK? Mm-hmm. C'est Patrice Bernier qui marque sur un penalty dans les arrêts de jeu pour pousser l'Impact à la ronde suivante du championnat canadien. Et finalement, l'Impact gagne le championnat canadien, mais ils sont passés à quelques secondes de se faire sortir par le FC Edmonton, par un cheveu. Ils se rendent en Ligue des champions. Par un cheveu, ils marquent un but contre Pachuca dans les derniers instants, le but de Cameron Porter, et l'Impact passe au tour suivant et finalement se rend en finale. Quelques années plus tard, Didier Drogba arrive à Montréal et on lui demande « Pourquoi tu as décidé Montréal? » Il dit « J'ai suivi l'Impact en Ligue des champions, c'est ça qui m'a fait découvrir l'Impact. » Et combien de joueurs, ensuite de ça, se sont amenés à Montréal et nous ont dit « J'ai choisi Montréal parce que j'ai vu que Didier Drogba avait joué ici. » Donc, tu comprends à quel point ça fait boule de neige tout cela. Et si une chose n'arrive pas, l'autre chose après n'arrive pas. S'il y a pas si Bernier ne marque pas ce but-là, il n'y a pas de championnat canadien. S'il n'y a pas de championnat canadien, il n'y a pas de Ligue des champions. S'il n'y a pas de but de Porter, il n'y a pas de finale contre Club América. S'il n'y a pas de finale contre Club América, Drogba ne vient jamais ici. Si Drogba ne vient jamais ici, Sagna ne vient jamais ici, Boyan vient... Comprends-tu?
Ben Jérémy, c'est pour ça qu'on apprécie ton travail. C'est que tu rends l'Impact de Montréal, tu rends ça extrêmement passionnant. Et on a hâte, évidemment, à la Ligue des champions de la CONCACAF. C'est tout le temps qu'on a, Jérémy. Je veux te souhaiter de joyeuses fête à merci. Toi, à toute ta famille, puis je te dis un gros merci d'avoir été avec nous.
Ben merci beaucoup. Même chose pour toi, mon ami Jérémy, et surtout aux fans de l'Impact, on leur souhaite un joyeux temps des fêtes et on pense déjà à 2020 et tout ce qui s'en vient avec le camp d'entraînement, Thierry Henry et bien sûr la Ligue des champions. On va triper comme des fous.
Merci beaucoup, Jérémy.
Salut.